Mon nom est Ray. À travers mes nombreuses naissances, je reste jeune et vigoureux. Je suis l'âme divine et mystérieuse qui autrefois créa les dieux et dont l'essence cachée nourrit les divinités du Duat, de l'Amenti et du ciel. Je suis le gouvernail de l'Orient, seigneur des deux visages divins. Mon rayonnement éclaire tout être ressuscité qui, pendant qu'il passe dans le royaume des morts, par des transformations successives, péniblement, cherche son chemin à travers la région des ténèbres.
Ré n'est autre que le soleil, réalité visible s'il en est. Appelé aussi Atum, dans sa métropole d'Héliopolis, il préside la grande Énéade. Ré, l'unique, le solitaire, sort la première matière solide du chaos aquatique et crée un couple de dieux, soit par masturbation, soit en crachant. Chou, l'air, et Tefnout, l'humidité, engendrent à leur tour Djeb, dieu de la terre, et Nout, déesse du ciel. Leurs enfants seront Osiris, Isis, Set et Nephthys. Nous sommes en 2778 avant Jésus-Christ. Jusqu'au début de la troisième dynastie, aucune différence essentielle de conception ne semble avoir existé entre le tombeau du roi et celui d'un noble ou d'un haut dignitaire. Mais à partir de cette époque, et pendant bien des siècles, tandis que les seconds continueront d'être inhumés dans des mastabas, les rois auront droit à des sépultures pyramidales. Djoser est le premier souverain à confier à un architecte la construction d'un monument funéraire grandiose. Imhotep devient ainsi le premier architecte connu de l'histoire et son œuvre géniale, la première pyramide funéraire du monde, s'élève maintenant au centre de la nécropole de Saqqara. L'origine du tombeau pyramidal remonte, selon toute probabilité, au tas de sable rectangulaire qui recouvrait la sépulture, une simple fosse, chez les habitants de l'Égypte prédynastique. On imagine sans peine que le tertre, bien que purement utilitaire à l'origine, fut censé évoquer la colline qui émergea des eaux primordiales lors de la naissance de la Terre, représentant ainsi l'existence. La mort pouvait donc être combattue, sur le plan magique, par la présence de ce puissant symbole. De plus, selon les croyances héliopolitaines, le roi qui cessait de vivre sur la terre allait rejoindre Ré, le dieu soleil, pour peut-être même s'identifier à lui. C'est pourquoi la pyramide est aussi un symbole ascensionnel, tant par sa forme extérieure que par ses couloirs intérieurs, généralement très inclinés. Les arêtes de la pyramide et l'inclinaison même de ses couloirs intérieurs pouvaient également figurer les rayons du soleil, tels qu'on peut les voir descendant sur la terre par une déchirure des nuages. Toutes ces dispositions illustrent le pouvoir du roi défunt de monter au ciel et d'en redescendre à son gré. Dans le prolongement de la pyramide de Khéphren, le sphinx de Gizeh exprime la sérénité d'une certitude. Nulle inquiétude. Nul effroi sur ses traits comme sur ceux des masques grecs. Il ne fixe pas une énigme dont la grandeur fatale le bouleverserait, mais il arrive intérieurement à une vérité absolue dont la plénitude le comble en contemplant le lever du soleil. Gardien des seuls interdits et des momies royales, le sphinx écoute le chant des planètes. Il veille au bord des éternités, sur tout ce qui fut et sur tout ce qui sera. Il regarde couler au loin les Nils célestes et voguer les barques solaires. ans après Imhotep, voici qu'apparaît dans l'histoire égyptienne un autre architecte, Senemmout, et un autre chef-d'œuvre commandé par la reine Hatshepsut. Rien ne saurait mieux illustrer la noblesse de ce sanctuaire que l'inscription du relief qui montre Amon, conduit par Thoth, devant Amès, la future mère de la reine Hatshepsut, dans la salle qui lui est consacrée.
Il est venu ce dieu souverain, Amon lui-même, maître des trônes des deux pays, ayant pris la forme de son époux. Ils la trouvèrent reposant dans la beauté de son palais. Éveillée par le parfum du dieu, elle rit devant sa majesté. Il s'empressa vers elle et s'enflamma pour elle, perdit son cœur pour elle. Elle pouvait le voir sous la forme d'un dieu. Lorsqu'il se fut approché d'elle, elle se réjouit en voyant sa beauté. Son amour la parcourut tout entière. Le palais fut inondé du parfum du dieu. Tous ses parfums venaient de Punt, pays de l'encens. La majesté de ce dieu fit d'elle tout ce qu'il voulait. Elle le laissa jouir d'elle et l'étreignit.
Tout ce que j'ai vu à Thèbes, tout ce que j'avais admiré avec enthousiasme sur la rive gauche, me parut misérable en comparaison des conceptions gigantesques dont j'étais entouré. Aucun peuple ancien ni moderne n'a conçu l'art de l'architecture sur une échelle aussi sublime, aussi large, aussi grandiose que le firent les vieux Égyptiens. Ils concevaient un homme de 100 pieds de haut.
L'impression profonde traduite par Champollion n'est pas surfaite. À Karnak, on se sent dans une capitale d'empire. On devine à contempler l'aire immense sur laquelle s'étale la ville religieuse que l'on est chez le roi des dieux. Amon a connu en effet dans l'histoire égyptienne un destin sans pareil. C'est au début du Moyen Empire que nous voyons Amon apparaître dans la région thébaine. D'où vient-il ? On ne peut le dire avec certitude. Il est probable qu'Amon était, à l'époque, un obscur dieu local de la Thébaïde implanté à Karnak depuis longtemps. Mais il est vrai que sa théologie, qui voit en lui un dieu de l'air ou encore un dieu de la fécondité, s'est constituée à partir d'emprunts aux grandes doctrines d'Héliopolis, d'Hermopolis et de Memphis, parfois même à des cultes moins célèbres, tels celui de Mine de Coptos. C'est la politique qui assure le succès historique d'Amon. Dieu des rois thébains qui chassèrent les Hyksos, il devient dieu suprême de l'État libéré et bientôt patron de l'Empire qui se constitue. C'est sous le Nouvel Empire que l'on peut le mieux suivre sa montée vertigineuse. Sous la 19e dynastie, 81 322 personnes, entre prêtres, gardiens, ouvriers et paysans, travaillent pour le temple d'Amon. Par ailleurs, les profits de nombreuses terres, de marchés et de chantiers lui reviennent, ainsi que les richesses et le butin que le pharaon ramène de ses campagnes militaires victorieuses. La décadence d'Amon naît de cet excès même de puissance. Trop de cultes sont lésés, et les rois eux-mêmes doivent trop compter sur les pontifes d'Amon. En 664 avant Jésus-Christ, la destruction de Thèbes par les Assyriens sonnera le glas de la religion d'Amon. Son culte continuera à se rendre au milieu des ruines de sa capitale dévastée, mais les dieux des provinces libérées du joug économique de Thèbes retrouveront leur faveur perdue. C'est Osiris, peu à peu, qui prendra à travers le pays la place prédominante qu'Amon avait jadis occupée durant près de 1500 ans. Il est difficile de s'imaginer aujourd'hui, lorsqu'on arrive à Louxor, que là s'élevait dans l'Antiquité la grande ville de Thèbes, la capitale des siècles durant de l'Empire égyptien, la cité célèbre et proverbiale dans le monde entier pour sa richesse, que le poète Homère, dans le 9e chant de l'Iliade, avait appelée « Thèbes aux 100 portes ». Dès le Nouvel Empire, on y vénère en grande pompe le dieu Amon. Une fois l'an, l'idole majeure quitte son palais de Karnak en une procession qui ouvre le temps des moissons. Remontant le fleuve, Amon se rend à Louxor, son harem du sud, pour y prendre la forme du dieu Min. D'emblée, on est plus étonné de la grande majesté de ce dieu que frappé de cette impudeur tranquille qui permit aux Grecs d'identifier Min au grand Pan. Le corps mince, figé dans un garde-à-vous sévère, est comme étiré par les deux très hautes plumes qui coiffent l'idole. Le peu de peau qu'un fin maillot collant laisse découverte est d'un noir profond, puisque le rite voulait que les statues de Min soient enduites d'une substance vivifiante faite de bitume et d'ingrédients carbonisés. Le bras droit est levé en équerre et le fouet royal, symbole de terreur salutaire, flotte mystérieusement au-dessus de la main ouverte. L'autre bras glisse sous le vêtement et la main entoure la racine du phallus divin, immense et raide. Telle est l'image calme en qui s'incarne la divinité redoutable du taureau qui couvre les femelles, maître générateur auquel on offre solennellement des pieds de romaine. Cette salade à sève blanchâtre étant chargée, croit-on, de vertus aphrodisiaques. Pour chaque victoire, à chaque triomphe, on érige de nouveaux temples grandioses en l'honneur du dieu. La mise à sac que lui fait subir Assurbanipal en 627 avant notre ère marque le début du déclin de la vieille capitale égyptienne. Pour finir, les Ptolémées la détruiront complètement, si bien qu'à l'époque romaine, ce n'est déjà plus qu'une montagne de ruines. À nouveau, comme pour Memphis, une prophétie s'est tristement réalisée. Ézéchiel avait dit en effet « Thèbes sera violemment ébranlée ». Dans l'avant-cour du temple, c'est avec surprise que l'on découvre une petite mosquée blanche où dort un saint de l'islam. Les amoureux de l'archéologie peuvent déplorer cette présence. Amon, lui, doit être content lorsqu'il voit, durant la fête patronale de Louxor, le peuple de sa province thébaine promener en procession la barque de Sidi Abou Lagag, comme l'était sa propre barque aux anciens jours de la belle fête du harem. À 320 km au sud d'Assouan, s'élève la plus belle et la plus fantastique construction du plus grand et du plus extravagant pharaon de l'histoire égyptienne, Abou Simbel. Théoriquement, ce temple est dédié au dieu de l'empire Amon-Ré de Thèbes et à Ré Arakti d'Héliopolis, les deux dieux principaux de l'Égypte. On vénère également ici le dieu Ptah de Memphis, mais en réalité, il n'a été construit que pour glorifier à travers les siècles et uniquement la mémoire de son constructeur, Ramsès II, le Grand. Dans cet endroit perdu du désert nubien, les 38 mètres de façade et les 65 mètres de profondeur du temple sont entièrement sculptés dans une unique masse rocheuse. C'est là qu'a lieu le miracle du soleil. Deux fois par an, aux équinoxes, le 21 mars et le 23 septembre, un rayon de soleil traverse les 65 mètres qui séparent l'entrée du temple du sanctuaire. Lentement, du nord au sud, la lumière radieuse fait sortir de l'ombre les quatre statues du fond du Saint des Saints avec tous leurs détails. Le soleil illumine l'épaule gauche de Ré Arakti, puis la statue du roi Ramsès. Quelques minutes plus tard, il se déplace et se concentre sur Amon-Ré. Après une vingtaine de minutes, la lumière disparaît. C'est un fait vraiment singulier que la statue de Ptah reste presque entièrement voilée par les ténèbres des profondeurs. Il est en effet le dieu de l'obscurité et du monde inférieur. Un autre fait étrange est que Ramsès, continuellement à la recherche de sa propre glorification, fasse construire, à côté de son chef-d'œuvre, un temple beaucoup plus petit, à peine 10 mètres, dédié à la déesse Hathor et à sa femme Néfertari. En Égypte, aucune épouse de Pharaon n'a jamais été représentée sur la façade d'un temple. Seule la femme de Ramsès II a droit à cet honneur. Des siècles et des siècles durant, les temples d'Abou Simbel, léchés par les eaux du Nil, continueront à perpétuer la mémoire, la grandeur et la divinité de Ramsès II.
Salut à toi, Sobek, le crocodilopolite. Ré, Horus, dieu puissant. Salut à toi, Sobek, le crocodilopolite. Salut à toi qui t'es levé des eaux primordiales. Horus, chef de l'Égypte, taureau des taureaux, grand être mâle, maître des îles flottantes.
Ainsi chantent quotidiennement les prêtres de la ville des crocodiles pour demander à leur seigneur, principe solaire, souterrain et aquatique tout à la fois, de faire vivre l'Égypte. Le crocodile est un être sorti des ondes, comme le soleil. Les poissons sont les obscurs ennemis du soleil. C'est donc sans absurdité que beaucoup d'Égyptiens, dans leur vision totale et harmonieuse de l'univers, en ont fait une divinité. En cette cité, comme dans d'autres villes de Sobek, un ou plusieurs crocodiles sont entretenus. Les textes indigènes confirment exactement ce récit d'Hérodote.
On l'a dressé, il est apprivoisé. On met aux oreilles de ces crocodiles des pendants en pierre artificielle ou en or, aux pattes de devant des bracelets. On leur donne à manger des aliments déterminés et des victimes. On prend soin d'eux le mieux possible tant qu'ils vivent. Quand ils sont morts, on les ensevelit, embaumés dans des cercueils sacrés. Au contraire, les habitants de la région d'Éléphantine tiennent si peu les crocodiles pour sacrés qu'ils les mangent.
À Komombo, on trouve d'importants vestiges d'un temple au plan unique en son genre. C'est en effet un temple double constitué par l'union de deux temples accolés. L'un est consacré à Sobek, le dieu de la fertilité considéré aussi comme le créateur du monde. L'autre est dédié à Haroéris, c'est-à-dire Horus le Grand, le dieu solaire guerrier. Le mythe d'Osiris trouve à Abydos le terrain le plus favorable à sa pleine expression, et chaque Égyptien se doit d'y faire un pèlerinage au moins une fois dans sa vie. Né pendant le premier des cinq jours complémentaires de l'année, Osiris devint roi du monde.
À peine roi, il arracha tout aussitôt les Égyptiens à leur existence de privation et de bêtes sauvages, leur fit connaître les fruits de la terre, leur donna des lois et leur apprit à respecter les dieux. Plus tard, il parcourut la terre entière pour la civiliser.
Mais le frère d'Osiris, Seth, que Plutarque appelle Typhon, conçut de la jalousie à voir l'amour qu'Osiris attirait à lui.
Il s'adjoignit 72 complices. Ayant pris secrètement la longueur exacte du corps d'Osiris, Typhon, d'après cette mesure, fit construire un coffre superbe, remarquablement décoré, et ordonna qu'on l'apportât au milieu d'un festin. À la vue de ce coffre, tous les convives furent étonnés et ravis. Typhon alors promit, en riant, qu'il en ferait présent à celui qui, en s'y couchant, le remplirait exactement. Les uns après les autres, tous les convives l'essayèrent, mais aucun d'eux ne le trouva à sa taille. Enfin Osiris y entra, et de tout son long s'y étendit. Au même instant, tous les convives s'élancèrent pour fermer le couvercle. Les uns l'assujettissent extérieurement avec des clous, les autres le scellent avec du plomb fondu. L'opération terminée, le coffre fut porté sur le fleuve et on le fit descendre jusqu'à la mer.
C'est à ce point de la légende qu'intervient la quête d'Osiris. Selon les sources égyptiennes, Isis, son épouse, et Nephthys, sa sœur, retrouvent le cadavre du dieu sur la berge de Nédit, le lieu de sa mort. Mais parallèlement au développement tardif du culte des reliques, chaque ville religieuse se vantant de posséder un morceau du corps divin, une légende plus complexe prit naissance, celle du démembrement d'Osiris par Seth. D'après cette version, Isis aurait retrouvé le corps de son époux dans le port libanais de Byblos et l'aurait ramené en Égypte après maintes aventures. Mais Seth, ayant découvert la cachette où Isis avait déposé le corps d'Osiris, l'aurait déchiqueté et en aurait dispersé les morceaux à travers l'Égypte. La quête aurait repris et chaque partie du corps divin aurait été ensevelie au lieu où elle aurait été retrouvée par Isis, sauf le phallus qui aurait été avalé par un poisson dans le lac de Menzalé, près de Port Saïd. La résurrection du dieu est évoquée par des livrets tardifs. Ils nous rapportent les plaintes d'Isis et de Nephthys, les appels déchirants par lesquels elles invitent le dieu à revenir sur terre. L'iconographie a conservé l'image des deux déesses balançant leurs grandes ailes au chevet du dieu mort pour lui rendre le souffle de la vie. Isis, par la force de son amour, parvient à ressusciter son époux. Ses yeux s'ouvrent et projettent un rayon qui permet à Isis de concevoir leur fils Horus. Type de l'épouse fidèle, même au-delà de la mort et de la mère dévouée, Isis a déjà en elle tous les traits nécessaires pour gagner la faveur des fidèles. Sa puissance magique, vite spécialisée dans la protection des enfants, ne peut qu'accroître le nombre de ceux qui recourent à elle. Après être parvenu par ruse à surprendre le nom secret du dieu suprême, Ré, son pouvoir s'étend sur l'univers, à l'égal de la puissance divine.
Je suis la mère et la nature entière, maîtresse de tous les éléments, origine et principe des siècles, divinité suprême, reine des mânes, premier entre les habitants du ciel, type unique des dieux et des déesses. Les sommets lumineux du ciel, les souffles salutaires de la mer, les silences désolés des enfers, c'est moi qui gouverne tout au gré de ma volonté. Puissance unique, le monde entier me révère sous des formes nombreuses, par des rites divers, sous des noms multiples. Les uns m'appellent Junon, les autres Bellone, ceux-ci Hécate, ceux-là Rhamnus. Mais les peuples des deux Éthiopies et les Égyptiens puissants par leur antique savoir m'honorent du culte qui m'est propre et m'appellent de mon vrai nom, la reine Isis.
Fils d'Osiris et d'Isis, neveu de Seth, Horus est le jeune héritier promis à la royauté terrestre de son père. Mais le crime de son oncle l'a dépossédé. Sa légende sera faite des épisodes de son enfance clandestine dans les marais de Chemnis, aux côtés d'Isis, à l'abri des poursuites du meurtrier de son père, puis de sa lutte ouverte pour reconquérir son droit. Après maintes escarmouches, au terme d'un procès devant les dieux, Horus obtiendra gain de cause. L'antique théologie Memphite admettait qu'il avait reçu le Delta, Seth restant maître de la Haute Égypte. Mais déjà, le folklore du Nouvel Empire racontera qu'Horus, vainqueur, fut proclamé roi éternel et universel de la terre, Seth allant tonner au ciel. selon les versions osiriennes du mythe qui prévaudront finalement, Seth l'assassin ne sera plus que le dieu des barbares, Horus le juste récompensé devenant maître de l'Égypte, son seul roi national. Son combat légendaire avec Seth le malfaisant, dont il tranchera les parties mais qui lui crèvera un œil, illustre la lutte de la lumière contre les ténèbres et la nécessité de vigilance, d'avoir l'œil ouvert dans la poursuite de l'éternité à travers les embûches des ennemis et des fautes. Horus symbolise donc l'impitoyable acuité du regard justicier auquel rien ne peut échapper de la vie intime ou de la vie publique. Il veille en outre sur la stricte exécution des rites et des lois. Les Égyptiens ont été frappés par la tâche étrange qu'on observe sous l'œil du faucon, œil qui voit tout. Et autour de l'œil d'Horus se développera également toute une symbolique de la fécondité universelle. Dans la longue histoire de l'Égypte, le personnage d'Horus a certes beaucoup évolué. Dieu céleste, divinité pharaonique, souverain, luttant pour l'empire du monde. On le voit cependant toujours combattant pour sauvegarder un équilibre entre des forces adverses et pour faire triompher des forces de lumière. Khnoum est figuré sous la forme d'un homme à tête de bélier à double encornure. Dieu créateur de la vie, générateur des espèces vivantes, selon les points de l'Égypte qui ont reçu son culte, il acquiert les fonctions supplémentaires de gardien des sources du Nil ou de potier modelant sur son tour l'œuf d'où toute vie doit sortir. Des béliers momifiés ont été retrouvés en abondance.
En eux résidaient les forces qui assuraient la reproduction des vivants. Leurs cornes entraient dans la composition de plusieurs couronnes magiques, propres aux dieux et aux rois, elles étaient le symbole même de la crainte qui rayonne du surnaturel.
Même symbolique au temps des Ptolémées, chez qui un prêtre de Mendès, qui avait dressé son image dans le temple du bélier, seigneur de la ville et maître de fécondité, pouvait compter sur les pèlerins pour prier en sa faveur.
Oh, vous qui naviguez d'amont en aval pour venir voir les grands béliers sacrés, priez le Dieu en faveur de cette mienne statue.
Hathor, dont le nom littéralement Hathor signifie la demeure d'Horus, est la nourrice du souverain d'Égypte. Elle est l'essence même du renouveau et de l'espoir en une survie puisque régente et corps du ciel, l'âme vivante des arbres. L'on comprend aisément que, projetant dans l'au-delà les espérances réalisées à chaque printemps sur terre, elle soit devenue, sur la rive gauche du Nil, à Memphis comme à Thèbes, la patronne de la montagne des morts. Elle est la fertilité, la richesse, la mère céleste du soleil, ce jeune veau à la bouche pure, mais aussi l'épouse du soleil, taureau de sa propre mère. Le plus souvent représentée sous l'aspect d'une vache sacrée ou d'une femme dont la tête est surmontée de cornes, elle est également une jeune femme aimable et souriante, déesse de la joie, de la danse et de la musique, ainsi qu'elle apparaît dans le grand temple de Dendera. Construit en granit rose comme la plupart des temples édifiés pendant la dynastie ptolémaïque, le temple de Dendera recèle une petite chapelle à ciel ouvert qui s'appelle Chapelle de la Sainteté. C'est l'endroit le plus réservé et le plus isolé de tout le sanctuaire. Lors des fêtes du Nouvel An, on y célèbre les mystères de la naissance de l'ordre cosmique après le chaos primordial, en accomplissant le cérémonial de l'union au disque, rôle cosmique dédié à Hathor. Au cours du quatrième mois de l'an égyptien, Koyak, Le pays entier, dans le recueillement, attend la résurrection d'Osiris, dont la renaissance se prépare dans les chambres basses du temple, où l'essentiel des rites se déroule en secret. Tous les ans, le 20e jour du premier mois de l'inondation, on célèbre également la fête populaire de l'ivresse, de même que chaque année, Hathor va passer 15 jours à Edfou avec son époux Horus. Son séjour est l'occasion de réjouissances prolongées, mais déjà son voyage par bateau depuis le lointain sanctuaire de Dendera donne lieu, à chaque ville-étape, à de nombreuses festivités. Autrefois, à travers des générations successives, la conscience humaine s'est trouvée axée sur la préoccupation mystique de la mort, laissant entrevoir un prolongement à cette existence terrestre dans une vie qui est au-delà et qui la dépasse. Nulle part cette préoccupation n'a été aussi prononcée que dans l'Ancienne Égypte. Pour nos contemporains, l'égyptologie ne serait autre chose qu'une curiosité. Or, en réalité, elle constitue l'expression d'une profonde science dont le sens avait été depuis des millénaires perdu, oublié, ignoré. Qu'on se donne la peine de relire aujourd'hui les lettres enthousiastes écrites par Jean-François Champollion lors de son séjour en Égypte. De cet engouement d'antan, vieux d'un siècle et demi, qu'en reste-t-il de nos jours? Des savants faisant leur cours d'égyptologie à la Sorbonne ou ailleurs, l'air agacé, ironique, sarcastique. En déchiffrant ces textes hiéroglyphiques, ils ne se donnent point la peine de dissimuler leur dédain, leur dégoût, ni leur ennui. Les Égyptiens, quant à eux, qu'étaient-ils au fond avec leur culture trois fois millénaire? Un peuple bizarre, arriéré, manifestement anormal, détraqué ou franchement aliéné. Toutefois, on ne saurait oublier que cette prétendue aliénation égyptienne occupe une place fort importante dans les annales de l'esprit humain. Les philosophes grecs que nous admirons tellement, Thalès, Démocrite, Platon, Plotin et tant d'autres, ne dédaignaient point pendant de longues années de séjourner dans les écoles égyptiennes. Ils avouaient d'y avoir puisé le meilleur de leur sagesse. Et la philosophie grecque demeure depuis deux millénaires le fondement de notre civilisation, la base de la culture européenne. Plus tard, pendant le Moyen Âge, ce fut l'alchimie, née du sol égyptien, qui aida la science européenne à décrypter les mystères de la nature. Comment expliquer ces paradoxes ? En dehors des préoccupations des anciens Égyptiens pour l'existence posthume, laquelle, quant à la science moderne, ne saurait être qu'un fatras de superstition, un autre côté de la spiritualité égyptienne apparaît comme bizarre. C'est leur polythéisme. Car le monothéisme seul nous semble à la rigueur digne d'un homme civilisé. Et pourtant, c'est bien le premier en date des philosophes de l'ancienne Grèce qui a proclamé « Le monde entier est rempli des dieux. » Thalès avait en effet passé de longues années d'apprentissage dans les sanctuaires de l'Égypte. Il s'avère à présent que les représentations des très nombreuses divinités découvertes dans les monuments égyptiens antiques ont provoqué un sérieux malentendu à propos de la religion des premiers habitants de cette terre. En fait, ce n'étaient pas plusieurs divinités que l'on adorait en Égypte, mais au contraire, sous le nom d'un dieu quelconque, le dieu caché, sans nom ni forme. L'idée qui dominait tout étant celle d'un dieu unique et originel. Les prêtres égyptiens le définissaient ainsi. Ils disaient « C'est de lui qu'émane l'essence de tous les autres dieux. C'est par sa volonté que le soleil luit, que la terre est séparée du firmament et que l'harmonie règne sur la création. » Toutefois, afin de faciliter au peuple la croyance en un dieu unique, les prêtres, les initiés et les sages qui vivaient dans les temples exprimaient ses attributs et ses diverses personnifications par des représentations sensibles. La plus parfaite image de Dieu était représentée par le soleil et ses principales caractéristiques : forme, lumière et chaleur. L'âme du soleil fut appelée Amon-Ré, ce qui signifie « le soleil caché ». Jean-François Champollion n'a réussi à déchiffrer que le sens strictement étymologique des hiéroglyphes, mais non pas celui de la pensée égyptienne considérée dans son aspect ésotérique. Cette deuxième tâche, de beaucoup plus redoutable, nous permettrait en revanche d'entrevoir quelques solutions des problèmes apparemment insolubles devant lesquels depuis longtemps, et surtout à l'heure actuelle, l'esprit humain se trouve placé.